chantait de bon matin quand on partait sur les chemins. À bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette.
Bonjour et bienvenue à tous à votre émission préférée. Il est l'heure, mon seigneur, sur Radio G 101.5. Bonjour les amis. Et bonne année.
Bonjour, bonne année.
Bonjour, bonjour, bonne année.
Alors, l'équipe n'est pas au complète, hein. Vous avez entendu les voix de Valentine. On est heureux de te retrouver, Valentine. On est avec Marc également et avec Jean-Jacques.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va se dispenser de Josiane et de Ricardo qui sont a priori pas dans les meilleures conditions. Espérons que le Covid n'est pas trop passé par là. Voilà. Valentine, c'est la deuxième fois que tu interviens avec nous aujourd'hui.
Ah oui, tout à fait. Je suis très heureuse d'être ici.
Bon, les fêtes se sont bien passées ?
Très bien, moi c'était très bien, très agréable. J'ai revu ma famille, j'ai vu ma grand-mère, ça s'est très bien passé.
Bon, et au final tout va bien puisqu'elle est avec nous ce midi. Jean-Jacques et Marc, aujourd'hui vous allez être nos experts de l'année mystère et on va découvrir tout de suite la programmation qui va avec. Oui Jean-Jacques ?
Non, mais... De quoi on va parler ?
Eh ben on va commencer par parler de l'année mystère, en l'occurrence.
Il va pas falloir la dire. Hein.
Non, on va essayer de se retenir.
De toute façon, tu passeras.
Exactement. Donc, la première chanson de l'année mystère, il s'agit de France Gall avec « Ma déclaration ». À tout de suite.
Je me sens bien quand tu es là.
C'était donc la déclaration d'amour de France Gall. Alors on voit que déjà ça anime un petit peu les propos autour des micros. France Gall, on parlait de poupée de cire, poupée de son. Donc pour aider nos auditeurs, c'était avant.
Poupée de cire, poupée de son, c'était bien avant.
C'était bien avant. Et comme tu le disais, Jean-Jacques, c'était pas pour la France.
Ah non.
Et Valentine, sais-tu pour quel pays c'était alors?
Je ne savais pas.
Il faut que tu recherches sur ton portable. Je crois, sauf erreur de ma part, comme toujours, c'est ce que je disais, je crois que c'est Luxembourg.
Luxembourg, d'accord.
J'aurais dit ça moi aussi.
Je pense. Ah.
Mais ça avait été un vrai succès, hein, parce que c'était. On reprenait ça facilement.
Alors, Jean-Jacques et Marc, nos experts de l'année mystère, hein, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, hein?
Moi, j'ai retenu que c'était quand même la grande première du salon de la BD à Angoulême. Ah. Donc, ça, c'était au début de l'année de référence, hein, dont l'année mystère.
J'y étais.
Ah, Jean-Jacques y était. Ben, il va pouvoir nous en parler.
Ah oui.
Et c'est vrai que depuis, quand on voit l'essor de la BD, c'est extraordinaire. Moi, j'ai un fils qui collectionne les BD. Il nous les fait partager. Et c'est dans tous les domaines. C'est ça qui est formidable. Ça explore tous les domaines.
Bah aujourd'hui, je crois que c'est devenu la première édition en volume.
Ah ouais. Ça fonctionne bien.
C'est possible, ouais. Ouais. T'avais été voir qui?
Ah non, attends.
Au festival d'Angoulême.
Qu'on se mette d'accord. Le festival de la BD, en ce temps-là, c'était assez confidentiel. C'est-à-dire que les gens qui aimaient la BD, oui, mais je veux dire, bon, c'était sur Angoulême, c'était sur 3 ou 4 lieux. C'était pas une grosse fréquentation, hein. Moi, je me rappelle, j'étais encore étudiant, hein, et on était venu. En général, c'est le week-end, ça commence normalement vers le jeudi, ça va jusqu'au dimanche. Bon, le dimanche, déjà, pas mal de mes dessinateurs étaient partis, hein, partent. Mmh. Le gros truc, c'est quand il y a la nomination, parce qu'il y a des prix, hein, donc en ce temps-là. Alors, qu'est-ce que c'était comme prix? Je me rappelle plus. Mmh. Parce qu'après, il y a eu l'Alfred, mais c'était vraiment. Tu rencontrais les dessinateurs, ouais. Tu les rencontrais, ouais. Mais tu les rencontrais dans la rue même. Ouais. À la limite, tu prenais ton repas avec eux.
Et alors, c'était quoi les grosses éditions BD de cette décennie?
C'est toujours les grands. Bon, il y avait Tintin, Astérix et tout ça. Ouais, mais il y avait surtout la bande dessinée adulte qui commençait avec l'Écho des savanes, hein, avec des grands dessinateurs comme Gottlieb, Brett Escher, Mandrika, il y avait Serre, enfin il y avait plein de gens comme ça. Et ce qui était, moi je l'ai vu, puisque après j'en ai fait quand même pas mal, hein, pendant une bonne dizaine d'années, j'y étais tous les ans, hein, par mon métier. Et en fait, cette première édition, je me souviens, c'était extraordinaire. Dans la mesure où c'était tout nouveau, c'était le premier, il y avait une espèce de bulle qui avait brûlé après, je crois, peut-être pas la première édition, mais la deuxième édition, une bulle gonflable. Hein. On appelait ça la bulle, évidemment, la bulle de bande dessinée. Hein. Et je veux dire qu'il fallait voir tous les gens qu'on rencontrait. Alors, si on avait quelques connaissances de la bande dessinée, surtout de leur auteur, bah, tu te retrouvais face, c'est comme si maintenant on se retrouvait face à, je sais pas moi, les grands chanteurs, les machins comme ça. Pour nous, ça représentait ça.
Et ça peut aussi, l'idée aussi de faire un dessin. Par l'auteur, hein, sur l'achat qu'on fait de sa
bande dessinée,
les dédicaces.
Alors, en ce temps-là, justement, les dessinateurs, comme il n'y avait pas beaucoup de monde, ils prenaient un temps, ils te faisaient des dessins, mais extraordinaires.
Personnalisés en quelque sorte.
Oui, bien sûr, ouais. J'ai quelques albums comme ça. Ouais. Hein, veux dire que, où tu avais un truc, un message pris, comment tu t'appelles, tu veux que je fasse un petit message. Et puis, il fallait voir les dessins. Je veux dire que c'était vraiment des dessins. Il y en avait même qui étaient en couleur.
Ça existe encore, mais il faut faire la queue, je crois qu'il y a.
Ouais, c'est des très très longues queues aujourd'hui pour.
Et
c'est
pas. Le temps. Mais alors attends, la différence, et là je m'arrêterai là pour faire le truc de la fichette de la BD. La BD, c'est. Avant, c'était complètement gratuit. T'allais où tu voulais. Alors évidemment, t'achetais des BD, tu les faisais dédicacer, c'était gratuit aussi. Mais surtout, après, il y a eu un temps où c'était tout payant.
Bah aujourd'hui, c'est encore payant, hein,
alors,
les
je
festivals.
Je ne sais pas, justement, il y a des années, je suis pas.
J'avais été dans certains festivals. Bon, ce n'était pas forcément de la BD, mais par exemple, moi, j'ai déjà été au festival des Utopias à la Nantes, donc c'est sur la science-fiction. Donc là, ça regroupe tout ce qui est science-fiction, que ce soit du cinéma, des BD aussi. Il y a des auteurs, des écrivains, des dessinateurs. Il y a vraiment de tout, mais par contre, c'est devenu payant. Et aujourd'hui, pratiquement tous les festivals un peu comme ça sont devenus payants.
Je pense, malgré tout, bon, peut-être pour clore le sujet, j'en sais rien, je pense qu'il y a quand même un gros phénomène qui est arrivé depuis quelques années maintenant, c'est le manga.
Oui.
Le manga, ça doit représenter énormément maintenant. Et est-ce qu'il se déplace? Alors je sais que au Festival de la BD d'Angoulême, je sais qu'il y a eu des grands auteurs qui sont venus, qui se sont déplacés. Il paraît que ça a amené des foules, quoi. Mmh. C'est
évidemment... Ah oui, bah aujourd'hui, la France, c'est le deuxième pays qui achète le plus de mangas derrière le Japon. Donc vraiment aujourd'hui c'est vraiment très important le marché du manga.
Alors moi c'est vrai que j'ai jamais trop marché là-dedans parce que c'est vrai que lire les livres à l'envers
je comprenais rien. Mais après c'est juste un coup à prendre, après on s'y fait.
Et toi Marc, quel événement majeur t'as retenu de cette année mystère?
Bien, j'ai retenu le démantèlement de l'ORTF. Notre ORTF qu'on avait connu. Hein, dans notre jeunesse.
Donc ORTF, eh bien, organisation radio télévision. Je sais pas.
Office radio télévision. Office de la radio télévision française.
Oui. D'accord.
Elle était avant c'était RTF.
Oui. D'accord.
Oui. Ça s'appelait RTF. Après ils ont mis le O.
Bon, c'est ça que j'aime bien. Moi dans cette émission c'est que j'apprends des choses.
Et
chaque
elle a été
semaine.
Démantelée.
Mais
en,
c'est même pas l'ORTF.
En cette société différente. Hein, donc. Et c'était quand même, ça a été vraiment un séisme quand même, notamment pour les gens qui travaillaient à l'ORTF, parce que il y avait des menaces, il y avait des mouvements d'ailleurs.
Pourtant,
en fin de l'année.
68 était loin quand même.
Ah oui, mais ça met du temps à coucher, mais il y a eu cette et ce qui nous a amené la nouvelle télévision telle qu'on la connaît maintenant.
Et pourquoi ça a été démantelé?
Est-ce que c'est de la politique?
On y vient. C'était une année politique, cette année mystère. Alors, une année présidentielle.
Ça, c'était mon sujet. Mais je veux dire, c'est vrai que pour moi, c'était vraiment le truc le plus important, c'est-à-dire la mort de Georges Pompidou.
Oui. Ce qui a précipité les élections. Et alors, moi, j'ai noté quelques petites choses, puisqu'on arrive dans une année présidentielle à nouveau. J'ai noté les critères pour être éligible président. Donc, il fallait avoir au moins 23 ans. Ça, c'était surprenant de le lire. On est toujours dans la même République, donc j'imagine que ça n'a pas changé.
Tu sais, pour y avoir. Bah, et la majorité, elle a bien changé.
Après, il fallait ne pas être privé des droits civiques, ce qui semble logique. Hein. Mais ce qui m'a plus surpris, c'est qu'il fallait 100 parrainages d'élus locaux.
100 seulement,
100 à l'époque.
De 30 départements différents. Donc ça m'a vraiment surpris. Aujourd'hui, on est plutôt à 500 signatures, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et ce que j'ai retenu, on en parlera tout à l'heure, mais ça a été le scrutin le plus serré de la 5e République, avec seulement 425 000 voix d'écart entre président, élu et le recalé.
C'était très serré, oui, je me souviens.
Vous l'avez vécu de manière, on va dire, participative, j'imagine.
Oui, je collais des affiches, mais je ne vous dirai pas pour qui.
Je vous propose de refaire une petite pause musicale après la déclaration d'amour de France Gall. Je vous propose d'écouter Richard Anthony avec quelqu'un d'amoureux de sa femme. On l'écoute tout de suite.
Qu'est-ce qui me prend? Je me sens soudain tout drôle, comme si j'avais un oiseau sur mon épaule. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme.
Mais ça, c'est tout à fait normal.
Comme au premier jour, je suis amoureux de ma femme. J'ai envie de l'embrasser, besoin de la caresser. Je sens me piquer au cœur une merveilleuse et tendre douleur. Comme un collégien, je suis amoureux de ma femme. Je la trouve belle, je la chante sur toute la gare. Je prends des billets d'avion et je vais me l'emmener prendre des vacances en jeu de marier. Depuis longtemps déjà n'existait plus rien, nous restait seulement la presse en commun. Et souvent s'installait au fond de mon cœur pour un jour ou deux un nouveau bonheur. Qui sait, peut-être nous sommes mariés trop jeunes. Et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles, j'en ai fait le tour. Je sais que c'est elle mon unique amour. Pour aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme. Comme au premier jour, je suis amoureux de ma femme. Je me sens prêt à passer 3 jours.
jours à rester couché, 3 jours à lui faire l'amour, 3 nuits sans dormir, 3 jours sans sortir. Qui sait, peut-être nous, nous sommes mariés trop jeunes, et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles, j'en ai fait le tour, je sais que c'est elle mon unique amour. Quelle chance, aujourd'hui je suis amoureux de ma femme.
C'était donc Richard Anthony avec Amoureux de ma femme. Alors Valentine, hein, tu t'es née en 2002, on le rappelle à nos auditeurs, donc elle ne peut pas connaître ce chanteur Richard Anthony.
Non, pas du tout.
Bon, tu l'as peut-être entendu dans la discographie de tes parents.
Oui, ou alors peut-être à la radio sur Nostalgie, un truc comme ça peut-être.
Chut, pas de nom.
Non mais je suis sûr. Hey, attends, je suis sûr que le dimanche matin sur Radio G, tu peux entendre des chansons.
Ah certainement, ah, oui. Ouais,
avec comment il s'appelle
Bon, l'émission c'est Dimanche Bonheur.
C'est ça. Voilà. Le matin.
Bon, on, avant de reparler un petit peu de l'année mystère, on va parler du pour ou contre du jour.
Bon. Il a répondu, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire.
Vous êtes ni pour ni contre, bien au contraire, j'en doute pas. Et le sujet du jour, ce sont les clichés. Valentine avait préparé une petite liste de clichés que j'ai trouvé intéressant sur les nationalités principalement. Et c'est vrai que on va tous avoir une petite idée préconçue sur les uns et les autres.
Oui, donc du coup, j'ai pris plusieurs pays, et donc suite avec quelques petits clichés que on a la plupart en tête, et ben votre but ça va être de deviner de quel pays je parle. Donc par exemple, pour le premier, si je parle d'un pays où il pleut beaucoup, à quel pays pensez-vous ?
Une région ou un pays ?
Un pays. Va être que des pays.
Bah, Angleterre.
Angleterre, oui.
Et bien voilà.
Gagné.
Je croyais que c'était la Bretagne.
La petite Bretagne et la grande Bretagne.
Ou la Normandie.
Ou la Normandie.
Oui, oui. C'était donc ensuite un autre pays. On peut parler d'un pays où c'est le centre du monde.
Vous l'avez.
Pas la France.
La France ?
Non. Moi, le centre du monde.
Moi je le dis pas parce que je l'ai lu hier soir.
Ou alors,
les plus beaux, les plus forts.
Tout est démesuré là-bas. C'est
les
le cliché.
Les Américains,
les États-Unis.
Oui.
Les États-Unis.
Les États-Unis, oui, les États-Unis.
J'avais d'autres aussi clichés, mais je me suis dit ce serait trop facile parce que bon, pour la pluie, vous allez trouver tout de suite. Sinon, j'avais les armes à feu, mais là, vous auriez trouvé tout de suite.
Ça, c'est, ça, c'est les clichés vus par les Français.
Oui, tout à fait.
Parce que vus par les Américains, c'est peut-être ce qu'ils pensent des Français, non ?
Ah oui. Ah, je dis pas la suite. Je ne dis pas la suite. Alors ensuite, si je vous dis la bière. C'est toujours les pays, c'est pas la région.
Il y en a deux. Moi, il y a la Belgique et l'Allemagne.
Oui, moi, c'est ça.
Ouais.
Oui.
Et donc, si je vous dis les saucisses.
C'est l'Allemagne.
Voilà.
La fête de la bière à Munich.
Ouais. Mais oui, c'est une fête très connue là-bas.
Oktoberfest.
Et d'ailleurs, l'âge pour boire de la bière est de 16 ans là-bas. Voilà. Il y a 3 alcools qu'on peut boire à l'âge de 16 ans, c'est la bière, le cidre et je ne sais plus le troisième.
C'est pas le schnapps.
Non.
Parce que là, c'est...
Et ensuite, là, ça va pas forcément être sur le pays en lui-même, mais ça peut être sur les personnes habitant là-bas, si je vous dis que les personnes habitant là-bas sont râleurs.
La France.
Ah, oui, oui.
Oh, bah, je crois que c'est tout bon, hein. C'est un sans faute. Hein.
Ouais, c'est un sans faute. Il en reste encore 2 ou 3.
Ah, quand même.
Ah, oui, oui,
allons-y, c'est rigolo.
Alors, j'essaye d'en faire des pas trop, trop faciles, sinon... Hein, alors, si je vous dis que ces habitants là-bas sont forts en maths...
Finlandais.
Non. Et ils adorent le karaoké.
Oh bah les Japonais.
Les Japonais, non.
Les Chinois. Voilà.
Ah oui.
Les Chinois, mais je conçois que c'est vrai qu'on a des clichés assez proches entre les Chinois et les Japonais, c'est vrai.
On va pas dire qu'ils se ressemblent, alors là, parce que c'est
alors
pas
là,
du
non.
tout. Faut pas dire ça.
Non, ça on ne dit pas ça.
On ne le dira pas.
Alors, ensuite, si je vous parle d'un pays où il fait très froid.
L'Islande, la Finlande,
la Laponie.
La Laponie, parce que ça.
Ou alors, on a le cliché que toutes les femmes sont belles, sont grandes et sont blondes.
Suédoises.
Les Suédoises.
Alors, oui.
Norvégiennes.
Ça pourrait être aussi elles, mais si je vous dis le dernier indice, vous allez trouver. C'est là où on boit de la vodka.
Allez, la Russie.
Eh oui.
Et la Russie.
Bon, là où il fait froid, moi j'étais plutôt sur les bûcherons au Canada, moi. Mais, mais tu m'as perdu, comme tu m'as dit que les femmes étaient grandes et blondes. C'était plus possible.
C'est vrai. Et pour finir, le dernier pays, c'est un pays où ce sera peut-être plus dur à trouver, mais il n'est pas très éloigné d'un autre pays qu'on a déjà cité. Ça va être un pays où les personnes là-bas sont très nulles en anglais. Et ce n'est pas les Français, même si on pourrait être aussi dans cette catégorie.
Très nuls en anglais.
Ils sont nuls en anglais. Ils sont serviables et polis.
Je suis désolé si on a des auditeurs de cette nation qui nous écoutent.
Ouais, je m'excuse. Ils sont serviables et polis. Ils ne savent pas dire non. Et ils aiment le saké.
Là, c'est japonais.
D'accord. Ce sont les japonais.
Bon, bah, voilà.
C'est vrai qu'ils sont polis.
Oui. Voilà une tripotée de on va dire de préjugés ou de clichés sur les nations. Alors un cliché, on est d'accord, c'est réducteur. Maintenant, c'est aussi révélateur de quelque chose. On a des humoristes qui le manient à outrance et qui font des choses drôles parfois quand même. Hein.
Tu parles des humoristes ou des politiques, là ?
Alors, pour qu'ils soient drôles, c'est plutôt les humoristes. Non, après, les politiques, bah, on est d'accord, ils s'en servent également, mais pas dans le même objectif. Là où ça me semblait utile, c'est qu'effectivement, l'humoriste va essayer de dénoncer, on va dire, peut-être la bêtise en la poussant à son paroxysme, alors que le politique va s'en servir pour des fins électorales.
Mmh. Mais on dit les clichés ont la vie dure, mais c'est vrai, ça résiste. Hein. Ça résiste bien.
T'as des exemples ?
Bon, il y en a ceux qu'on citait, là.
Oui, par exemple, ou alors, je ne l'ai pas cité dedans, mais le fait que les Chinois mangent du chien ou du chat, c'est...
Ou des nids d'hirondelles.
Oui, celui-là, je ne le connaissais pas, mais c'est un cliché qui, en réalité, est vrai et faux. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, dans certaines régions, il est possible de trouver du chien.
Bien sûr.
Ou du chat, mais la majorité des Chinois ne mangent pas du chien.
Moi, j'étais plutôt effectivement sur des trucs un peu clichés, mais un peu drôles dans le genre les histoires de Belges, quoi.
Enfin, je pensais à ça aussi, moi, la façon dont on raconte les histoires sur les Belges.
C'est les seuls que les Français comprennent pas.
Hein. C'est Coluche qui disait si en plus c'est noir, petit, gros et juif,
là, ça va être dur pour toi.
Dur. Mais c'est vrai qu'après, ce révélateur, comme le disait. À mon avis, assez justement, Valentine, sur les nationalités, on est là-dedans. Enfin, ça nous ressemble malgré tout, quoi. Par contre, les politiques s'en servent à des fins un peu discutables. Enfin, j'ai souvenir d'une parole de Jacques Chirac. Si à ça vous ajoutez le bruit et l'odeur, c'était quand même assez assez catastrophique comme propos.
Ils le sortent. Là, c'est comme on parle toujours du clivage. Là, c'est.
Et vous, les clichés alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça a lieu d'être ou bien est-ce qu'il faut les combattre ? On parlait tout à l'heure des dessinateurs, des BD d'Angoulême, t'as cité Serres entre autres. Là, les clichés, c'était de la matière première pour lui.
Ah ouais, non mais j'ai jamais réfléchi trop aux clichés avec Serres. Par contre, c'est surtout son dessin qui était vraiment fouillé, qui était vachement... Et il faisait une œuvre d'art d'un gag. C'est extraordinaire. D'ailleurs, les affiches, tout, je sais pas, les gens de mon époque, je pense, ont tous eu une affiche de Serres parce que c'est tellement... Moi, je me souviens, un exemple, d'un dessin de Serres, et je l'ai plus, malheureusement, où tu vois trois ou quatre hommes préhistoriques... Hein, et il y en a un qui est dans les positions du gardien de but, hein, avec des buts qui sont faits avec des menhirs et des dolmens. Hein, et puis t'en as un qui crie de douleur parce qu'il vient de shooter dans un rocher, dans un. Mais non, c'est complètement fou, quoi. Là, une image du football, mais je veux dire complètement, c'est pas un cliché.
J'étais plus avec Serge, je crois que c'est lui qui faisait des caricatures homme-femme.
Hein. C'est d'ailleurs grâce aux clichés que les caricatures sont nées.
Oui.
S'il n'y avait pas les clichés.
Homme-femme.
Oh, il a fait quelques ouvrages sur les femmes, Serge, non ? C'est pas lui, je confonds ?
Alors, moi, personnellement, je me rappelle, il faisait des corps de métier, les infirmiers, ouais. Les docteurs, enfin, les. Et là, c'était des bandes dessinées, hein, je veux dire, c'était. Ou c'était des dessins plutôt aussi, hein, des dessins.
Mais justement, Jean-Jacques, moi, c'est marrant parce que quand. On a parlé du mot cliché. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est la photo.
Oui. Ah,
alors, et là, tu parles d'image. C'est incroyable.
Justement, non, mais c'est vrai. C'est comme ça que j'en suis venu à ça. Parce que c'est vrai que moi, pour moi, le cliché, avant, c'était la photo.
Ben oui.
C'est-à-dire, faut pas oublier quand même que on a quand même vachement simplifié le truc. Hein. Tout le temps, à la limite, on fait des milliers de clichés et on les élimine pratiquement pas. Puisque ça prend un peu de place sur ta carte mémoire ou sur ta clé USB ou sur ton disque dur. Mais alors qu'avant, il fallait quand même sélectionner. Parce qu'il faut pas oublier quand même que tu prenais ta photo. Hein. Il fallait quand même que tu prennes toute ta pellicule. Et puis en plus, t'allais la donner, non pas à un laboratoire, mais à un photographe. Hein, et ça mettait une semaine, voire deux semaines, avant que tu puisses récupérer tes exemplaires papier. Donc je veux dire, tu te rends compte, je veux dire, il fallait que tu sélectionnes. Maintenant, là, tu sélectionnes, tu prends 3, 4 photos, 5 photos, t'en as rien à cirer. Tu les prends.
Alors, j'ai lu ces dernières semaines qu'après le retour du vinyle en 2020-2021, l'argentique revenait aussi à la mode. Et ça m'a surpris de le lire.
Oui,
mais ça, je le lis depuis. Mais oui, après, je sais. Mais je pense que ça ne remplacera pas.
Je pense que sur le plan artistique, l'argentique a de belles heures devant lui. Hein.
L'argentique, oui. Sinon aussi, ce qui est revenu...
En photo.
Sur la photo.
Ça, c'est la photo, là. Mm. Ah ouais, non, parce que là, l'argentique, ça n'existe plus.
Mais bien sûr que si.
Mais ça peut revenir.
Mais vous achetez des pellicules où? Vous les faites développer comment?
Alors, moi, j'en achète plus, effectivement, mais c'est vrai que je pense que les gros studios photo font encore de l'argentique, hein, de la photo d'art... c'est
les gens de métier.
Oui.
D'accord. Non, mais parce que ce que je veux dire, c'est que des grands laboratoires comme Kodak, ça n'existe plus. Mmh. C'est fini.
Mais ils ont disparu.
Ils ont évolué, ils sont changés de nom, ils font autre chose. Ouais. Mais c'est vrai.
Après, c'est pas forcément l'argentique qui est revenu à la mode, mais ce sont les appareils photo où on prend une photo et la photo sort instantanément au bout de 5 ou 10 minutes. Mmh. Ça, c'est revenu à la mode.
Le Polaroid.
Voilà, le Polaroid, cherchez le mot.
Le Polaroid, c'est une marque. Mais c'est vrai. Autrefois, d'ailleurs, tu sais, quand on prenait une photo, on parlait d'instantané, ce qui n'était pas vrai. Parce que l'instantané, ça veut dire que tu figeais l'action. Alors que, comme disait Raphaël, le Polaroid, donc c'était une marque hein, de l'appareil qui sortait sa photo automatiquement. Maintenant, je sais que c'est revenu. Je sais qu'il y a eu une époque, pendant les mariages ou les fêtes et tout ça, on posait un petit Instamatic. Alors, Instamatic, c'était un exemple de machin. Hein, on en posait 5 ou 6 sur la table et tout ça. Prenez les photos, toutes les photos que vous voulez, on récupérera ça après, puis on tirera, on choisira. Alors que maintenant, c'est la mode avec les appareils qui sortent la photo tout de suite.
Parce qu'on aime bien avoir la trace immédiatement, enfin sur papier. Et pour revenir à cliché, parce que pour revenir à cliché, derrière le cliché photo, il y a le côté réducteur, c'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est une image qu'on a qui s'imprime et qui reste en fait, et qui reste. Et puis après, on s'en sert pour on peut s'en servir en politique, on peut s'en servir pour faire rire, puis on peut s'en servir aussi
pour démolir quelqu'un.
Oui, je pense, par exemple, les Bretons, les Normands, il pleut toujours. Bon, ça permet de dire, nous, il pleut moins, donc on est mieux. Enfin, je veux dire, par rapport à notre propre identité, ça a un petit côté sympa pour nous, quoi.
Alors,
au dépend des autres.
Pour pas balancer de saloperie, effectivement, on va dire qu'il y a des régions où ils sont caractérisés d'ivrognes par nature, ou de consanguins. Pour
ça peut être très méchant. Ça peut être très très méchant.
Même aussi, il y a peut-être des clichés qui ont commencé à exister, mais qui sont plus véridiques aujourd'hui. Par exemple, je pensais à un cliché où on disait qu'à un moment, les femmes ne savaient pas conduire. Mais aujourd'hui, les femmes, elles savent tout aussi bien conduire que les hommes.
On n'ose pas rebondir, nous. Hein.
Non, mais c'était un cliché.
Peut-être qu'à l'époque, c'était le cas, mais aujourd'hui, le cliché, il persiste.
C'était le cas parce qu'il n'y avait pas de femmes à passer le permis de conduire aussi. Enfin, aujourd'hui, elles conduisent des 38 tonnes, elles conduisent des trains, elles conduisent des avions. Enfin, il n'y a plus de règles là-dessus. Hein.
Mais ça peut être très, très, très dur à vivre pour les gens qui le subissent, ce cliché. Hein. Quand c'est récurrent.
On va refaire une petite pause musical, je vous propose d'écouter tout de suite Véronique Sanson avec On m'attend là-bas justement. Hein. À tout de suite.
Thank you.
Donc c'était On m'attend là-bas de Véronique Sanson. Je ne sais pas si ça aurait aidé nos auditeurs à définir l'année mystère. On peut peut-être déjà les aider sur la décennie. On est dans les années
70.
Dans les années 70. Donc on a pratiquement donné la réponse parce qu'on a parlé des élections tout à l'heure. Donc ça doit les aider, j'espère. Oui. On confirme ça après le prochain morceau musical.
Ok.
Jean-Jacques, tu avais une petite chronique à nous proposer. Est-ce que c'est sur l'année mystère ou pas sur l'UFC que choisir ?
Alors, chronique musicale ou chronique UFC ?
Allons-y sur la chronique UFC si tu veux bien.
UFC. Je me cale. Alors là, ça va être un côté pratique. Ça va être un côté pratique sur un sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire réparer davantage les appareils domestiques. La fabrication d'appareils électroménagers ou électroniques produit beaucoup de déchets difficilement recyclables, faute de réparation systématique. L'industrie freine toute évolution, malgré quelques bons exemples et la pression de la loi. Les consommateurs ne sont pas non plus bien disposés pour changer leurs habitudes. Certes, la volonté des pouvoirs publics et la sensibilité de l'opinion vont bien dans le sens d'une économie circulaire, privilégiant le remploi des appareils plutôt que le jetable. Mais les mentalités et les comportements des consommateurs, ne sont guère en phase. On observe pourtant un accroissement du recyclage entre particuliers. Ainsi, les appareils périmés mais fonctionnels se retrouvent plus souvent réutilisés dans la famille ou proposés d'occasion, voire donnés aux associations. Mais il reste difficile de faire réparer. Souvent, le client est découragé par les contraintes, le déplacement ou le transport, ou un coût trop élevé. Les solutions de réparation non marchandes manquent aussi, en dehors des grandes villes. Parce que dans les grandes villes, on a de la chance. Les solutions pour allonger la durée de vie des appareils domestiques sont à rechercher aussi ailleurs. Ainsi, l'allongement de la garantie légale de conformité, jusqu'à 5 ans au lieu de 2, a été envisagé par un récent projet de loi pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Mais cette mesure a été supprimée sous la pression des industriels français. Pourtant, certains fabricants donnent le bon exemple. C'est le cas de Seb, qui rationalise la commercialisation de ses pièces détachées et intègre la réparation dès la conception du produit. L'indice de réparabilité, ça vous connaissez peut-être, des produits accentue aussi cette tendance au prolongement de l'usage dans le temps. La France est le premier pays en Europe à engager cette démarche. Elle associe l'ensemble des partenaires concernés, consommateurs et fabricants. Cet indicateur s'appliquera progressivement, mais obligatoirement, sur l'étiquetage des appareils domestiques. Il concerne les équipements de la maison, du jardin et l'électronique.
Et dans tout ça, ça veut dire qu'on a un monde où on consommerait moins, c'est ça ?
On fabriquerait moins, puisque ça serait recyclable et qu'on pourrait reprendre. Mais c'est vrai, j'avais une discussion il y a presque quelques minutes avec une personne qui disait « Ah ouais, mais moi j'aime bien avoir un truc neuf. J'aime bien avoir un truc neuf et que c'est garanti, tout ça. » Alors, la garantie de quelque chose qui a servi déjà. Mmh. Mais en fait, on ne s'aperçoit pas trop que le truc a déjà servi. Par exemple, dans les vêtements, il y a beaucoup de choses qui sont faites à partir de trucs recyclés. Mmh. Et c'est vachement chouette, c'est beau, c'est bien, il y a de la créativité. Hein.
Mais tu parlais de la résistance, effectivement, des industriels et des fabricants. Moi, je pense que si une loi leur imposait de mettre dans le domaine public, par exemple, les plans des produits qu'ils ne produisent plus, eh bien, effectivement, la réparabilité s'en trouverait bien améliorée et on consommerait effectivement moins, ce qui ne va pas dans leur sens.
Là, j'aborde pas forcément le sujet dans ma chronique, mais je veux dire que c'est vrai qu'à ce moment-là, si ça restait comme ça dans nos frontières, on éviterait peut-être d'acheter des trucs qui ont été fabriqués dans d'autres pays, sous des conditions très, très, très...
Mais moi, je pense que c'est quand même une tendance lourde d'aller vers ça. C'est vrai que on sort d'année et d'année où l'obsolescence programmée, et puis voilà, tout le monde, beaucoup de gens s'en accommodaient. Maintenant, je crois que, vu l'évolution quand même du monde, et avec notamment la perspective au niveau du climat notamment, la nécessité de consommer différemment, moi je pense qu'il y a une tendance lourde. Et moi personnellement, parce que bon, ce sont aussi des actes personnels, on parle de la loi, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Hier, j'ai transporté un réfrigérateur qui était assez âgé dans un endroit pour le réparer. J'ai pris le temps de le faire. C'est vrai que j'ai une remorque. Bon, j'ai pris ma voiture, je l'ai transportée. Et je crois qu'il y a quelques années, je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça. J'ai une tondeuse, j'ai un collègue, tu parlais de s'entraider sur ces questions-là, une tondeuse qui était au bout du rouleau au niveau de son moteur, et j'en ai parlé à moi, un copain qui est mécano, hein, qui s'appelle Pierre. Et bien, il me l'a réparé et j'ai fait au moins avec elle 5 ou 6 ans de plus. Et j'en étais très content. Et je pense que nos générations, les nouvelles générations, raisonnent différemment. Et au niveau des voitures, j'ai lu récemment dans la presse qu'au niveau des voitures, ils commencent à penser faire en sorte que la voiture soit réparable, enfin, l'intégrer même, comme tu dis, dans la conception. Et par exemple, j'ai vu aussi qu'un moteur thermique, on pourra peut-être le faire passer en moteur électrique dans quelques années. Donc ça sera naturel.
Plutôt que de refabriquer une voiture entièrement neuve,
c'est ça, c'est ça, Jean-Luc.
Adaptée. Ben, voilà. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de... Moi, pas seulement la voiture, mais il y aura plein d'autres choses comme ça.
Je pense que là, on y va, ça va prendre du temps, parce qu'il y a des intérêts en jeu, puis il y a aussi la culture, comme tu disais, des gens, on est habitué à être dans le neuf, à renouveler. Mais moi, il suffit de voir le spectacle, j'y vais de temps en temps dans une déchetterie, quand je vois que ce qui est, entre guillemets, je dis trivialement, balancé dans une déchetterie, on se dit, mais il y a quand même mieux à faire.
En l'occurrence, les déchetteries sont beaucoup en contrat avec des ressourceries pour pouvoir réorienter ce qui peut être réemployé.
Oui, mais quand on me dit le tout venant, j'ai posé la question au gars de la déchetterie, le tout venant, le tout venant, c'est le tout venant, l'enfoui. Hein.
Oui. Moi, c'est vrai que ce qui me ravit, hein, par exemple à la télévision, quand je vois des reportages justement sur des entreprises qui se sont créées à renouveler, à recycler les choses, je me dis, putain, d'abord, ils inventent beaucoup.
Mmh. Ah oui.
Je veux dire, il y a de la créativité, et puis je crois que c'est ça l'avenir.
Mais c'est un secteur en plein développement.
Ah, on a une jeune là avec nous. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, elle? Oui.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Je pense vraiment, contrairement à ce que vous dites, aujourd'hui, je pense plutôt par rapport à ma génération, on est vraiment en plein dedans et on a conscience de ça. Bon, à une moindre échelle, je pense par exemple aux vêtements. Mais ces dernières années, le nombre de friperies qui sont ouvertes est énorme. Moi, il y a quelques années, j'aurais pas vu de friperies. Aujourd'hui, dans la ville où j'habite, et je reviens assez souvent, il y en a 3 ou 4 des friperies. Donc, je parle pas forcément pour tout ce qui est électroménager, je suis pas trop au fait, forcément. mais à ce sujet-là, je sais que rien qu'à ce niveau-là, la seconde main, aujourd'hui, ça nous touche plus. Et même, je pense que vos générations sont de plus en plus touchées aussi. La seconde main, je pense, c'est aussi la raison du succès de Vinted. Une plateforme qui permet de revendre des vêtements qu'on porte plus. C'est vraiment pour ça que ça a marché. C'est l'idée de faire de la seconde main, que les gens sont prêts aujourd'hui à acheter quelque chose qui a déjà été porté. Et puis oui, en termes d'innovation, il y a beaucoup d'innovations qui sont dessus, qui permettent vraiment de soit garder, de donner une seconde vie. Le recyclage, tout ce qui est recyclage, ça se développe énormément. Et puis aussi, l'idée aussi de consommer, d'acheter moins et de consommer, mais d'avoir quelque chose qui tient plus longtemps.
Bon, je vous propose de refaire une petite pause musicale et on va vous faire rêver un petit peu avec Yves Simon et J'ai rêvé New York.
J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur le sun. Hey, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur le sun.
Monsieur Lister Young, si une bombe atomique tombait sur New York, que feriez-vous? Je briserai la vitrine de chez New Tiffany City. Et je piquerai tous les bijoux. Monsieur Grégory Corso, qu'est-ce que la puissance? Rester debout au coin d'une rue et n'attendre personne. Bonjour monsieur Hendrix, Je suis du New York Times. Salut. Moi je suis de la planète Mars. J'ai rêvé New York. J'ai rêvé New York. J'ai rêvé New York. New York City se résonne. Hey, j'ai rêvé New York. J'ai rêvé New York. J'ai rêvé New York. New York City se résonne.
Babylone, tu te shoot et tu rêves. Babylone, tu fumes trop et tu rêves. Babylone, tu exploseras sur un graffiti de New York.
Roulant Ford,
si tu veux faire Mac,
roulant Cadillac,
si tu veux faire chic,
roulant Buick,
si tu refais,
roulant Chrysler. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City se résonne. Hey, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City se résonne. Nous étions arrivés balancés par des filins d'acier. Du haut de nos chevaux, nous regardions les fumées. De l'asphalte, des morceaux de pneus, de la gomme et des souliers. J'ai dit, nous détacherons les ponts de cette cité pour qu'elle puisse s'envoler. Pour qu'il n'y ait plus de sang, de sueur, ni de larmes. Seulement le silence, coincé entre mon rêve et deux océans. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City se résonne. Hey, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City se résonne. Hey, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City se résonne. Hey, j'ai rêvé New York.
Donc c'était Yves Simon avec J'ai rêvé New York. Ça nous fait voyager un petit peu cette émission de temps en temps.
Et c'est toujours cette année mystère.
Alors Jean-Jacques, justement, tu vas nous la révéler.
Oh, j'ai la chance. L'année 1974. En fait, il y a eu tellement de chansons et tellement d'albums cette année-là que j'ai eu du mal à faire mon choix. J'espère que Raphaël et mes amis présents sur le plateau, et ceux beaucoup plus nombreux bien entendu qui nous écoutent, voudront bien, en dehors de l'album du jour, m'autoriser à évoquer d'autres moments musicaux, qu'ils soient français, francophones ou internationaux. Pour moi, il y a eu tout d'abord Jean Gabin et son « Je sais ». Formidable chanson écrite par Jean-Loup Dabadie pour la version française. En effet, il existe à l'origine une version américaine, mais je ne l'ai jamais écoutée, jamais réussi à la trouver.
J'étais gosse haut comme trois pommes. Je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais.
Et puis, il y a eu The Rubettes, Sugar Baby Love.
Sugar Baby Love, Sugar Baby Love, I didn't mean to make you blue. Sugar Baby Love, Sugar Baby Love, I didn't mean to make you blue.
Dave avec Vanina, mais aussi sa reprise de la chanson de ces mêmes Roubettes, Ce serait trop beau. Alors, il y a eu Michel Delpech, Les Divorcés, jolie chanson, tout en sans sensibilité.
On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner, ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie, il a fallu que je t'accuse.
Il y a eu Daniel Guichard, Mon vieux. Bon, tout le monde sait que c'est une chanson écrite par Jean Ferrat.
Son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux.
Claude François, Le téléphone pleure.
Le téléphone pleure.
Pour les succès internationaux, ABBA et leur Waterloo, Waterloo. Carl Douglas et son Kung Fu Fighting.
Oh, 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 oh. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit.
On le retient plus, Jean-Jacques, le samedi soir.
Ah, ouais, ouais. Un des premiers produits lancés très commercialement, El Bimbo par Bimbo Jet. Oh, oh. Et puis il y a eu aussi Richard Anthony, Amoureux de ma femme. Ça, Raphaël s'est fait un plaisir de nous le diffuser. Il y a eu Mike Brandt. Mais non, je vais quand même sélectionner mon album 74. Et ce, pour une bonne raison. Il faut dire qu'il est important pour lui, cet album. C'est son premier. Et la chanson qui donne le titre à l'album est connue de tous. Ça a été un grand succès et, n'ayant pas peur de le dire, a véritablement fait connaître ce chanteur, auteur et souvent maintenant auteur-compositeur. Les mots de gamin, les souvenirs d'enfance, souvent douloureux, tendres, mélancoliques, mais savoureux toujours. Du pur chouchon, quoi. J'ai choisi seulement des extraits de trois chansons de l'album, mais elles sont bien représentatives de l'univers de l'artiste. Du moins, à l'époque, il n'y a pas loin d'un demi-siècle. Donc la chanson « J'ai 10 ans ».
j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré.
Elle est intemporelle.
Alors, la chanson qui s'appelle Les Annonces, d'ailleurs, je crois me souvenir que Les Annonces, normalement, devait être le titre de l'album.
Les Petites Annonces ?
Les Annonces. Allez, Petites Annonces, mais je...
La ville qui pleure, écrivez. J'ai laissé le soleil à l'autre bout du jour. Je n'ai plus que la nuit pour trouver mon amour. J'ai laissé le soleil à l'autre bout du jour. Je n'ai plus que la nuit pour tomber dans l'amour.
Avec une sacrée orchestration, comment ça vient en faire dans le temps, ma pauvre dame, hein. Et puis, enfin, l'amour 1830. Ou la nostalgie des bonnes manières d'antan.
Moi, l'amour 1830, pathétique, romantique, je trouvais ça démodé. Moi, l'amour 1830, je n'ai pas su le comprendre et je reste malheureux, malheureux dans le parc au point du jour.
Un album à redécouvrir, et si vous l'avez dans votre discothèque, eh bien, n'hésitez pas à le ressortir et à le jouer au plaisir. Hein. C'est bientôt la fin de cette émission. On va re-souhaiter à nos auditeurs une bonne année, si possible, et surtout avec une bonne santé. Et puis, bah, comme nous tous, on va rester prudent, vigilant, et essayer de passer à travers les gouttes du satané Covid. Mmh. On va se quitter en chanson avec une dernière chanson qui, alors on a rêvé New York et puis bah, je voulais pas faire cette émission sans passer Nicole Croisi avec Parlez-moi de lui.
Puisque là-bas vous êtes ses amis, asseyez-vous et parlez-moi de lui. Il voulait voyager du sud. Et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord. Parlez-moi de lui. Il n'a pas écrit. A-t-il enfin trouvé la joie, la liberté? Sur lui, ma chaîne d'or. Sur les photos, il semble avoir changé. Et il me paraît triste et fatigué. Parlez-moi de lui. Cherche sa vie et qu'il le sait. Vous a-t-il demandé de me parler? A-t-il besoin de moi à ses côtés? Parlez-moi de lui.
Il nous parle de toi.
Je n'aime que lui.
Il ne pense qu'à toi.
Il m'avait dit patience.
Il ne pense qu'à toi.
Dans
Valentine, merci beaucoup. Meilleurs vœux.
Meilleurs vœux à vous tous.
Marc, à dans 15 jours.
À dans 15 jours, fidèle à l'équipe.
Voilà, et puis Jean-Jacques a dans 15 jours également.
Ça sera avec plaisir.
On aura un invité dans 15 jours. On vous réserve la surprise. Voilà.
Il faudra que je fasse une chronique musicale un peu plus courte.
Voilà. Allez, portez-vous bien et à dans 15 jours. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette.
Radio G.
Just wanna tell you.
101.5 FM.